Deuxième partie. Les sociétés esclavagistes et coloniales. Chapitre 6. Les sociétés esclavagistes, l'inégalité extrême. Nous avons analysé dans la première partie de ce livre la transformation des sociétés ternaires en sociétés de propriétaires, en nous concentrant sur l'étude des trajectoires européennes. Ce faisant, nous avons omis non seulement le cas des sociétés trifonctionnelles extra-européennes, mais également le fait que les sociétés européennes ont mis en place de 1500 à 1960 environ des systèmes de domination coloniale dans le reste du monde, qui ont profondément affecté leur développement, comme celui de l'ensemble de la planète. Nous allons maintenant étudier, dans cette deuxième partie, le cas des sociétés esclavagistes et coloniales, et la façon dont la transformation des sociétés trifonctionnelles extra-européennes, en particulier en Inde, où les divisions statutaires anciennes demeurent inhabituellement visibles jusqu'à nos jours, a été altérée par leur rencontre avec les puissances coloniales et propriétaristes européennes. Ces processus et trajectoires ont une importance décisive pour comprendre la structure actuelle des inégalités mondiales, aussi bien entre pays qu'à l'intérieur des pays. Nous allons commencer par examiner dans ce chapitre ce qui constitue sans nul doute la forme la plus extrême de régime inégalitaire, les sociétés esclavagistes. Ces dernières ont une existence bien plus ancienne que le colonialisme européen, et l'étude des conditions de leur expansion, de leur schéma de justification et de leur disparition pose des questions fondamentales pour l'histoire générale des régimes inégalitaires. En particulier, nous verrons que les modalités de l'abolition de l'esclavage à l'âge moderne, décidées au Royaume-Uni en 1833, en France en 1848 et aux États-Unis en 1865 et au Brésil en 1888, et les différentes formes de compensation financière versées aux propriétaires et non pas aux esclaves, qui ont été mises en place à cette occasion, nous apportent un témoignage précieux sur le régime de quasi-sacralisation de la propriété privée qui dominait au XIXe siècle et qui a donné naissance au monde moderne. Dans le cas états-unien, la question des inégalités raciales et de l'esclavage a en outre eu un impact durable sur la structure des inégalités comme sur la formation du système des partis politiques. Nous étudierons ensuite, dans les prochains chapitres, le cas des sociétés coloniales post-esclavagistes dans le cadre de ce que l'on peut appeler le second âge colonial, 1850-1960, en nous penchant en particulier sur le cas de l'Afrique, puis sur celui de l'Inde et d'autres sociétés, notamment en Chine, au Japon et en Iran, et sur la façon dont leur trajectoire inégalitaire a été altérée par le phénomène colonial. Société avec esclaves, société esclavagiste. L'esclavage est présent dans les sociétés les plus anciennes qui nous aient laissé des traces écrites, en particulier dans le Proche-Orient du 2e et 1er millénaire avant l'ère commune, AEC, de l'Égypte pharaonique à la Mésopotamie. Le Code babylonien d'Amourabi, rédigé vers 1750 AEC, détaille les droits des propriétaires. Le vol d'esclaves est puni de mort, et le barbier qui raserait la mèche de cheveux, permettant à l'époque d'identifier les esclaves, aurait sa main coupée. Dans l'Ancien Testament, rédigé à la fin du premier millénaire avant notre ère, des peuples vaincus sont régulièrement mis en esclavage par les vainqueurs, et des parents vendent leurs enfants comme esclaves, notamment quand ils ne peuvent plus payer leurs dettes. L'esclavage a laissé des traces bien avant l'émergence explicite du schéma trifonctionnel visant à organiser la société autour des trois classes cléricales, guerrières et laborieuses, avec une classe laborieuse unifiée et libre, tout du moins en théorie. Schéma qui se formalise autour de l'an 1000 en Europe et du 2e siècle AEC en Inde. En pratique, les logiques esclavagistes et trifonctionnelles ont longtemps coexisté au sein des mêmes sociétés, car le processus d'unification de la classe des travailleurs en un même statut, qui en théorie implique non seulement la fin de l'esclavage, mais également du servage et des différentes formes de travail forcé, est un processus complexe qui s'est étalé sur de nombreux siècles, en Europe comme en Inde et dans les autres civilisations. il est utile de commencer par rappeler la distinction établie par Moses Finley entre d'une part les sociétés avec esclaves, dans lesquelles il existe des esclaves, mais où ces derniers jouent un rôle relativement faible et ne représentent qu'une part réduite de la population, le plus souvent à peine quelques pourcents, et les sociétés esclavagistes, où les esclaves occupent au contraire une place centrale dans la structure de la production et les rapports de pouvoir et de propriété, et rassemblent une part significative de la population, plusieurs dizaines de pourcents. On trouve des esclaves dans quasiment toutes les sociétés humaines jusqu'au XIXe siècle, qui sont donc des sociétés avec esclaves au sens de Finley, mais il s'agit généralement de très petits effectifs. Pour Finley, il n'existerait dans l'histoire qu'un très petit nombre de véritables sociétés esclavagistes. Athènes et Rome dans l'Antiquité, puis le Brésil, le sud des États-Unis et les Antilles au XVIIIe et XIXe siècle. Dans ces différents cas, les esclaves auraient représenté entre 30% et 50% de la population totale, voire davantage dans le cas des Antilles. Les recherches ultérieures ont montré que les sociétés esclavagistes, tout en restant relativement rares, étaient nettement plus répandues que ne l'avait envisagé Finley. Dans l'Antiquité, on trouve des concentrations importantes d'esclaves dans toute la Méditerranée et le Proche-Orient, à Carthage et en Israël, autant que dans les cités grecques et romaines, avec des variations importantes suivant les contextes politico-idéologiques, économiques, monétaires et commerciaux. Entre le XVe et le XIXe siècle, on observe également de nombreux exemples de sociétés esclavagistes en dehors du cadre occidental, notamment au royaume du Congo, entre l'Angola, le Gabon et l'actuel Congo, au califat de Sokoto, dans le nord de l'actuel Nigeria, et au royaume d'Aceh, sur l'île de Sumatra, aujourd'hui en Indonésie, où les esclaves auraient représenté, suivant les cas, entre 20% et 50% de la population. Le cas du califat de Sokoto, considéré comme le plus grand État africain à la fin du XIXe siècle, avec plus de 6 millions d'habitants, dont environ 2 millions d'esclaves, est particulièrement important, puisque l'esclavage et différentes formes de travail forcé s'y poursuivirent jusqu'à son intégration dans l'Empire colonial britannique au début du XXe siècle. Il est probable qu'il existe bien d'autres exemples de sociétés esclavagistes qui restent à découvrir, et davantage encore, qui n'ont pas laissé de traces suffisantes pour pouvoir être étudiées précisément. Il existe également de nombreux cas intermédiaires où les esclaves représentent une fraction de la population qui n'est ni infime ni dominante, par exemple entre 10% et 15% de la population au Portugal ou au Maroc à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle. Pour ce qui concerne les traites africaines, on estime qu'elles ont concerné au total autour de 20 millions d'esclaves entre 1500 et 1900, dont les deux tiers au titre de la traite atlantique en direction des Antilles et des Amériques, et un tiers pour la traite transsaharienne et en direction de la mer Rouge et de l'océan Indien, organisée à la fois par les États et les marchands européens, arabes et africains. Ce qui constitue une ponction démographique considérable sur l'Afrique subsaharienne, compte tenu de la population limitée du continent au cours de cette période. La population de l'Afrique subsaharienne est estimée à 40 millions d'habitants en 1500 et 60 millions en 1820. L'autre limitation de la classification introduite par Finley est précisément qu'il existe en réalité de multiples formes d'esclavage et de travail forcé. On observe dans la réalité historique un continuum de statut du travail entre la servitude absolue et la liberté complète, une infinie diversité de situations en fonction des droits dont disposent réellement les uns et les autres, qui sont toujours l'objet d'une construction socio-historique spécifique. Dans les formes les plus extrêmes et les plus industrielles de l'esclavage, telles que celles que l'on observe avec la traite atlantique, les esclaves n'ont quasiment aucun droit. Ils s'apparentent à une pure force de travail et sont traités comme un bien mobilier. Chattel slavery. Les esclaves n'ont alors pas d'identité personnelle, pas de nom reconnu comme tel, n'ont pas de droit à la vie privée, à la vie familiale ou au mariage, pas de droit de propriété et bien sûr pas de droit de mobilité. ils subissent une mortalité extrêmement élevée, environ un cinquième pendant la traversée océanique et presque autant dans l'année qui suit, et sont continuellement remplacés par de nouveaux esclaves venant d'Afrique. Dans le Code noir de 1685, édicté sous Louis XIV pour fixer les droits en vigueur dans les îles esclavagistes des Antilles françaises et en partie pour limiter les abus, les esclaves ne peuvent rien détenir et leurs maigres effets personnels appartiennent à leurs propriétaires. À l'inverse, dans le cadre du servage, les serfs n'ont certes pas de droit de mobilité, puisqu'ils sont tenus de travailler sur les terres de leur seigneur et ne peuvent partir travailler ailleurs. Mais ils ont une identité personnelle. Ils signent parfois les registres paroissiaux et ils ont généralement le droit de se marier, ce qui peut toutefois nécessiter l'approbation du seigneur. Et en principe, de détenir des biens et des propriétés généralement de faible valeur, là encore avec l'autorisation de leur maître. En pratique, cependant, ces frontières entre esclavage et servage sont souvent brouillées et peuvent varier considérablement suivant les contextes et les propriétaires. En particulier, de façon graduelle, au cours des dernières décennies du XVIIIe siècle, et de façon de plus en plus nette après l'abolition de la traite atlantique en 1807, qui mettra elle-même plusieurs décennies avant d'être appliquée complètement, les plantations des Antilles, des États-Unis et du Brésil commencent à reposer sur l'autoreproduction de la population négrière. Dans le cas états-unien, cette seconde phase de l'esclavage s'avérera la plus prospère et la plus profitable, puisque le nombre d'esclaves passera de moins de 1 million en 1800 à 4 millions en 1860. La crainte des révoltes conduira dans certains cas à un durcissement de la condition esclavagiste au cours de cette période, comme avec les lois adoptées en Virginie, en Caroline et en Louisiane dans les années 1820-1840, punissant de lourdes peines tous ceux qui apprendraient à lire à des esclaves. Il reste que le simple fait que se développent des formes de vie privée et de sociabilité familiale rend la situation des esclaves états-uniens, antillais et brésiliens du XIXe siècle nettement différente de celle en vigueur à l'époque de la traite et du remplacement continu de la force de travail par les nouveaux arrivants. Il n'est pas certain que la condition des serfs européens du Moyen-Âge ait toujours été très supérieure. Dans l'état actuel des recherches disponibles, les 4 millions d'esclaves exploités dans le sud des États-Unis en 1860 à la veille de la guerre civile, 1861-1865, constitue la plus forte concentration d'esclaves observée dans l'histoire. Il faut là encore souligner les limites de nos connaissances sur les sociétés esclavagistes anciennes et plus généralement les limites des sources disponibles en dehors des systèmes esclavagistes euro-américains et atlantiques des 18e et 19e siècles. Les estimations les plus répandues sur l'esclavage antique font état d'environ 1 million d'esclaves, pour environ 1 million de personnes libres, à Rome et dans sa région au 1er siècle, et entre 150 000 et 200 000 esclaves à Athènes et dans sa région au 5e siècle AEC, pour environ 200 000 personnes libres. Ces évaluations ne couvrent toutefois pas toute l'Italie romaine ou toute la Grèce antique et ne peuvent être considérées que comme des ordres de grandeur. Surtout, la signification du statut servile varie tellement suivant les contextes que ces comparaisons purement quantitatives ont un sens limité. Dans le cas du califat de Sokoto au XIXe siècle, une partie des esclaves pouvait occuper des fonctions élevées dans l'administration ou dans l'armée. En Égypte, du XIIIe au XVIe siècle, les Mamelouks sont d'anciens esclaves affranchis, ayant occupé de hautes fonctions militaires avant de finalement prendre le contrôle de l'État. L'esclavage masculin militaire joue un rôle important dans l'Empire ottoman jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle, de même que l'esclavage féminin domestique et sexuel. Dans la Grèce antique, certains esclaves, très minoritaires il est vrai, remplissent des fonctions d'esclaves publics et de hauts fonctionnaires, en particulier pour des fonctions hautement qualifiées, comme la certification et l'archivage de textes juridiques, la vérification de la pesée des monnaies ou l'inventaire des biens des sanctuaires, expertise que l'on juge préférable de sortir du jeu politique et d'attribuer à des personnes qui ne disposent pas de droits civiques et ne peuvent donc prétendre occuper les fonctions suprêmes. On ne trouve nulle trace de ce type de subtilité dans l'esclavage atlantique. Les esclaves sont assignés au travail dans les plantations, et la séparation quasi absolue entre population noire servile et population blanche libre prend une forme extrêmement tranchée et peu commune dans l'histoire des sociétés esclavagistes. Royaume-Uni, l'abolition-compensation de 1833-1843. Nous allons maintenant passer en revue les différentes abolitions de l'esclavage atlantique et euro-américain au cours du XIXe siècle, car ces séquences historiques permettent de mieux comprendre les arguments avancés par les uns et les autres pour justifier ou condamner l'esclavage, ainsi que la multiplicité des trajectoires post-esclavagistes possibles. Le cas du Royaume-Uni est particulièrement intéressant pour notre enquête, car il illustre de nouveau une situation de gradualisme extrême que nous avons déjà rencontrée dans le cas de la transition britannique entre logique trifonctionnelle et propriétariste et que nous retrouvons pour la transition entre logique esclavagiste et propriétariste. La loi d'abolition, adoptée par le Parlement britannique en 1833 et qui fut mise en place progressivement entre 1833 et 1843, comportait en effet une indemnisation intégrale des propriétaires d'esclaves. Rien n'était prévu pour indemniser les esclaves des dommages subis par eux ou leurs ancêtres, qu'il s'agisse des lourds dommages physiques ou du simple fait d'avoir travaillé pendant des siècles sans rémunération, ni dans cette abolition, ni d'ailleurs dans aucune autre abolition. Bien au contraire, comme nous allons le voir, les ex-esclaves eurent l'obligation, une fois émancipés, de produire des contrats de travail de long terme relativement rigides et peu avantageux, si bien qu'ils connurent en réalité, dans la quasi-totalité des cas, un long régime de travail presque forcé après leur libération officielle, avec des variations suivant les abolitions considérées. En revanche, les propriétaires d'esclaves eurent droit, dans le cas britannique, à une compensation complète pour le dommage subi en tant que propriétaire, à savoir la privation de leurs droits de propriété. Concrètement, l'État britannique prit à sa charge le paiement aux propriétaires d'une indemnité qui était approximativement égale à la valeur de marché de leur stock d'esclaves. Des barèmes relativement sophistiqués furent établis en fonction de l'âge, du sexe et de la productivité des esclaves, afin que la compensation soit la plus juste et la plus exacte possible. Ce sont ainsi quelque 20 millions de livres sterling, soit environ 5% du revenu national du Royaume-Uni de l'époque, qui ont été versés à 4000 propriétaires d'esclaves. Si un gouvernement décidait aujourd'hui de consacrer à une telle politique une même proportion du revenu national britannique de 2018, alors il faudrait verser quelque 120 milliards d'euros, soit environ 30 millions d'euros en moyenne pour chacun des 4000 propriétaires. On parle donc ici de très gros propriétaires, détenant souvent plusieurs centaines d'esclaves, parfois plusieurs milliers. Tout cela a été financé par une hausse correspondante de la dette publique, qui était elle-même payée par l'ensemble des contribuables britanniques, et en pratique, principalement par les ménages modestes et moyens, compte tenu de la forte régressivité du système fiscal britannique de l'époque, à base principalement de taxes indirectes pesant sur la consommation et les échanges, comme la plupart des systèmes fiscaux jusqu'au XXe siècle. Pour fixer les ordres de grandeur, on peut aussi noter que la totalité des budgets publics consacrés aux écoles et à l'enseignement en général, tout niveau confondu, ne dépassait pas 0,5% du revenu national par an au Royaume-Uni au XIXe siècle. C'est donc l'équivalent de plus de 10 années d'investissement éducatif qui a été distribué en argent public pour indemniser les propriétaires d'esclaves. La comparaison est d'autant plus frappante que le sous-investissement éducatif du pays est généralement considéré comme l'une des causes majeures du déclin britannique au XXe siècle. Les archives parlementaires décrivant ces opérations, qui à l'époque paraissaient parfaitement raisonnables et justifiées, tout au moins aux yeux de la minorité de citoyens propriétaires qui disposaient du pouvoir politique, ont récemment fait l'objet d'une exploitation systématique de la publication de plusieurs livres en 2010 et 2014 et de la mise en ligne de la base de données nominative complète. Il est ainsi apparu que parmi les descendants des propriétaires généreusement indemnisés dans les années 1830 figurait un cousin du premier ministre conservateur alors en place, David Cameron. Des demandes furent exprimées pour organiser une restitution au trésor public des sommes en question, qui étaient à l'origine de la fortune familiale et du portefeuille financier et immobilier toujours détenu au début du XXIe siècle, de même d'ailleurs que pour de nombreuses familles fortunées britanniques. Mais rien ne se produisit et les choses en sont restées là jusqu'à aujourd'hui. En l'occurrence, les esclaves de l'Empire britannique qui furent émancipés par la loi de 1833 étaient au nombre d'environ 800 000, la plupart issus des Antilles britanniques, Jamaïque, Trinité et Tobago, Barbade, Bahamas, Guyane britannique, 700 000 au total dans les British West Indies, comme on les appelle en langue anglaise, et pour une moindre part de la colonie britannique du Cap en Afrique du Sud et de l'île Maurice dans l'océan Indien. Ces territoires étaient composés principalement d'esclaves, mais relativement à la population du Royaume-Uni des années 1830-1840, environ 24 millions de personnes, le nombre d'esclaves émancipés ne représentait finalement que l'équivalent d'environ 3% de la population métropolitaine totale. C'est ce qui permit à cette politique d'indemnisation intégrale des propriétaires d'esclaves d'avoir un coût élevé, mais néanmoins supportable par le corps social et le contribuable britannique. Nous verrons que les choses se présentèrent très différemment dans le cas états-unien. L'ampleur des compensations en jeu rendait quasiment inenvisageable une solution financière.